Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Tiziano Zandonella, notre invité de ce jour, mène une double vie. Le jour, il transmet ses vastes connaissances à de sages et disciplinés élèves, il est enseignant. La nuit et le week-end, ne le dit à personne, il se munit d'une guitare et chante dans un groupe de style essentiellement folk, dénommé Yellow Teeth, sillonnant les routes pour se produire en concert dans toute la Suisse, voire même en France ou en Allemagne. L'auteur-compositeur-interprète valaisan va nous parler de la merveilleuse aventure musicale de Yellow Teeth, débutée il y a 8 ans. Avec cette formation, Tiziano a joué dans divers festivals, par exemple au Palais Odéon ou encore à Winterthur, expérience très particulière et enrichissante, comme vous pourrez le constater. Il nous avouera avoir récemment commencé à sévir dans un autre groupe également, mais je ne vous dévoilerai rien de plus pour le moment, histoire de ne pas vous divulgâcher l'info. En fin d'interview, il a bien voulu répondre à un petit quiz portant sur trois de ses chanteurs préférés. Je vous laisse donc écouter cette interview qui a été réalisée durant l'été 2020. Mais commençons par le début. À l'âge de 15 ans, Tiziano reçoit sa première guitare. Il nous raconte dans quelles conditions.
Oui, alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon frère avait obtenu assez facilement une guitare de mes parents à l'adolescence, mais il avait abandonné assez rapidement. Et du coup, pour moi, ça a été quasiment une année de demande. J'ai commencé à leur demander autour de, je pense, 13 ans et demi, quelque chose comme ça. Et puis, je l'ai obtenu dans ma 14e année, après une année. Et puis, ils m'ont dit, si tu nous casses les oreilles pendant une année, on regardera. Mais après, je l'ai eu et j'ai toujours cette guitare. Et puis, j'ai toujours l'ampli qu'ils avaient acheté avec. C'était une guitare électrique. Puis, l'ampli me sert encore beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu, le jour où vous avez reçu cette guitare?
Ah, j'étais fou. C'est vraiment parce que je recevais beaucoup de cadeaux quand j'étais enfant. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. On était ultra gâtés dans ma famille. Et puis, normalement, ma passion première, c'était le skateboard, comme beaucoup de jeunes de mon âge. Et ça m'a fait plus quand j'ai reçu la guitare. Je me souviens que j'ai passé des heures dans ma chambre le premier jour. Je savais rien faire avec, mais juste à faire des sons. Finalement, ils m'ont arrêté au bout de quelques heures en me disant que j'étais ultra casse-pied, mais c'était une joie folle, ouais.
Est-ce que vous avez par la suite pris des cours, soit de guitare, de chant ou de solfège?
Oui, oui. Alors j'ai pris des cours de guitare sans solfège avec un musicien qui est assez connu dans le milieu de l'enseignement, qui s'appelle Gilles Siro. Et puis c'est marrant parce que plus tard, j'ai une fille qui joue dans mon groupe, qui est devenue ma copine. En fait, elle aussi a pris des cours de guitare avec Gilles Siro.
Voilà. Donc, quelqu'un qui a su trouver la bonne manière pour vous enseigner, pour vous donner
exactement,
le goût de
ouais,
la guitare.
C'est un prof qui est assez doué pour libérer un peu l'angoisse que ça peut créer un instrument. Et il avait pas trop réussi avec mon frère, mais avec moi ça a bien marché.
Une guitare sèche, on précise. Hein.
Ah, une guitare électrique.
Électrique.
J'ai commencé avec une guitare électrique, ouais.
Et maintenant, vous jouez presque de la guitare sèche.
Exactement. Dans Yellow Teeth, j'utilise qu'une guitare sèche. J'ai utilisé des électriques pour des gros festivals, mais sinon, qu'une guitare sèche.
Pourquoi ce changement au fil du temps?
Entre guitare électrique et guitare sèche? Alors, quand j'ai reçu ma guitare électrique, en fait, j'ai très vite cherché à jouer dans des groupes à partir du moment où je savais faire deux accords. Et puis, c'était assez difficile de trouver un groupe qui faisait à peu près ce que j'aimais. J'étais passionné par les Clash à ce moment-là. Et puis, un groupe de punk rock, j'avais de la peine à trouver sans que ça tombe dans le punk rock californien un peu laid. Du coup, à 17 ans, avec l'argent que je m'étais fait pendant l'été, je me suis acheté une guitare sèche pour pouvoir justement m'accompagner tout seul, parce que c'est un instrument assez complet, et puis au niveau rythmique, etc., ça permet de se passer de batteur pendant un moment, et puis comme ça j'ai pu aussi un peu développer mon jeu de guitare.
Tiziano Zandonella, on va maintenant revenir un petit peu aux aspects non musicaux de votre vie, on dira. Vous avez fait des études en lettres à Genève. Quel souvenir de cette période ?
Alors, j'ai pas beaucoup aimé mes études. J'ai pas aimé les études en elles-mêmes. Mais par contre, la vie universitaire, j'ai beaucoup aimé, forcément. Je pense que ça restera certainement dans mes plus belles années. Forcément, la jeunesse, la fête. Mais les études en elles-mêmes m'ont pas passionné énormément parce que j'aime beaucoup la lecture et puis je voyais pas forcément ce que je voulais voir. C'était très académique et du coup dans mes études d'anglais, souvent je devais lire des livres que j'aimais pas beaucoup, sur lesquels j'avais pas mal d'a priori, mais ça me laissait pas mal de temps pour lire de mon côté. Du coup, j'ai pas été non plus trop brimé, ça va.
Très bien, vous êtes aujourd'hui enseignant au Châble. Comment est-ce que vous conciliez ces deux activités, la musique et l'enseignement ?
Alors, j'ai toujours fait passer la musique un peu avant l'enseignement, niveau temps, c'est-à-dire que j'essaye d'organiser l'enseignement autour de la musique. Et là où je suis au Châble, j'ai beaucoup de chance parce que la direction comprend la place que ça a pour moi. Du coup, ils sont assez conciliants avec ça. Mais avant que j'aie ce travail, j'ai fait 5 ans de remplacement. Et là, c'était parfois des périodes assez tranquilles où je pouvais travailler. Puis parfois, quand j'avais les concerts et le travail, alors là, j'avais pas beaucoup de choix. Je dormais pas beaucoup. Mais
on va maintenant faire une pause musicale avec un titre tiré de votre premier album Nightbirds qui est sorti maintenant il y a 6 ans à peu près.
Tout à fait.
Dans quelles circonstances vous avez écrit et composé cette chanson ? Est-ce que vous vous en rappelez ?
Alors, je me souviens rarement de quand j'ai écrit mes chansons, mais celle-ci, je m'en souviens. Je l'ai écrit, je devais composer des morceaux pour créer un album. Jusque-là, j'avais fait uniquement des courts EP de 4-5 chansons. Et, cette chanson, elle est venue pendant le processus de composition. C'est un de ces moments où on se dit « Ah, chouette, j'ai évolué !» Parce que la structure est un peu spéciale dans le sens où elle repose sur 4 accords mais qui se répondent, en fait. Et puis, c'est une structure qui se balance un peu comme la chanson. Et puis au moment où je l'ai écrit, c'est venu assez naturellement. Et à la fin, quand je l'ai écrit, je me suis dit « Ouais, chouette, j'ai réussi à faire quelque chose dont je suis à peu près fier. » Donc
voilà. Pour cette chanson, vous avez d'abord écrit la musique.
Exact. Alors, musique et parole en même temps.
En même temps.
Ça a été très fluide. Il y a des chansons qui me prennent énormément de temps. Puis celle-ci, je pense qu'elle a dû être écrite en 2-3 heures.
Alors, on écoute Lou Jane.
It comes from my heart. comes from her heart. Love 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 comes from her heart.
C'était donc Lou Jane tiré de votre premier album. Titanos Andonella, est-ce que vous pouvez nous parler de l'aventure qu'a constitué ce premier album ? On suppose qu'au début, c'est pas facile de trouver les musiciens, l'entourage qu'il faut. Quel souvenir ?
J'ai fait mon premier concert sous le nom de Yellow Teeth, c'était en 2012, été 2012. Et ça a pris une année et demie jusqu'à ce que je puisse aller enregistrer avec des musiciens avec qui ça allait. J'avais commencé avec un musicien multi-instrumentiste qui s'appelle Christian Pralon, qui a fait un peu guide pour moi pendant un temps, mais ensuite il a préféré pas continuer. Et à ce moment-là, j'ai dû trouver d'autres musiciens et j'ai eu beaucoup de chance. J'en ai trouvé finalement en parlant dans les bistrots avec eux. Et je suis parti en studio avec des musiciens plus jeunes que moi, mais plus expérimentés, donc qui m'ont apporté vraiment beaucoup pendant les enregistrements. Après, le premier album a comme particularité de comporter 4 chansons qui sont en groupe complet. Les 6 autres, c'est de la musique vraiment acoustique, maximum de guitare. Et à ce moment-là, j'ai eu l'aide d'un autre musicien qui s'appelle Jeff Albelda et puis de Sacha Ruffieux.
Le nom de le groupe, Yellow Teeth, bien sûr, dans jaune en français. Est-ce qu'on peut vous rappeler rapidement pour quelle raison ce nom-là ?
Oui, il fallait trouver un nom. Et puis, c'est comme faire une photo de groupe. La première photo qu'on fait, on se dit, mon Dieu, dans quelle aventure je me suis embarqué. Du coup, je cherchais un nom et puis c'est en lisant que j'ai vu ça dans un livre que j'étais en train de lire, un livre de Charles Bukowski. Rien à voir avec l'auteur, rien à voir, c'était vraiment juste un moment comme ça où j'ai vu marqué en grandes lettres Yellow Teeth. Puis je me suis dit, bon,
ça
très bien, voilà, ouais. C'était assez visuel, assez graphique pour que je me dise, voilà, c'est bien.
Le style musical qui se rapproche le plus de ce que vous faites, je crois qu'on peut dire que c'est le folk. Est-ce que vous avez parfois pensé à changer complètement de registre, de style ?
Non, jamais vraiment. Si j'avais voulu le faire, alors je n'aurais pas fait le premier album comme il était. L'idée, c'était vraiment de faire un maximum de folk. Et puis c'est toujours l'idée. Je ne pense pas que je vais changer radicalement de style. Par contre, faire évoluer ma façon de faire du folk, oui. Et c'est vrai que si j'avais voulu faire un projet avec des styles variés, alors certainement que déjà dans le premier album, j'aurais un peu annoncé la couleur. Sinon, ça aurait été extrêmement bizarre. Par contre, c'est vrai qu'avec ce groupe, on a fait une fois l'expérience pour un projet particulier de jouer sous une fausse identité sur un vrai disque qui est sorti d'un faux groupe. C'était un projet du Musée de l'Élysée. Il y a une série d'artistes dont je ne me rappelle plus le nom, mais en gros, qui avaient comme projet de sortir des faux albums avec des faux groupes, mais des vraies chansons, quoi.
Donc écrites exprès pour cet album.
Exactement.
Et du style, justement ?
Alors, à ce moment-là, on a eu des instructions qui étaient données par les artistes et le style, c'était de l'indie rock, mais qui se rapprochait de Pavement ou bien des groupes quand même slacker assez, qui jouent assez fort. Du coup, on a dû, là, à ce moment-là, tout réadapter, mais c'était assez marrant à faire, ouais.
Top. Tiziano, vous êtes auteur-compositeur, on vous retrouve aussi au chant, à la guitare sèche et à l'harmonica. Vous avez aussi les autres membres du groupe, est-ce que vous voulez nous en parler, qui sont-ils?
Alors, dans les membres que j'ai depuis le début, j'ai Charlotte Visseau à la batterie, qui est une batteuse de la région de Sierre, maintenant qui habite dans le canton de Vaud. Justine Salvadori qui faisait les voix et la guitare, qui est restée jusqu'en 2019. Et Sacha Ruffieux, qui est aussi là depuis le premier album. Ensuite, il y a eu une succession de musiciens. Alors là, je peux faire la liste si vous voulez, mais il y en a eu beaucoup.
Il y a eu plusieurs passages.
Voilà, il y a eu plusieurs passages.
Très bien. Vous êtes assez proche, je crois, de Sacha Ruffieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
La première fois qu'on s'est rencontrés avec Sacha, c'était en 2008. Et c'était vraiment, on s'est croisés dans un backstage, on jouait au même endroit, mais dans des formations différentes.
C'est quoi un backstage pour un non-initié?
Une arrière de salle, en attendant, voilà, moi je faisais la première partie, lui la deuxième, et puis derrière on s'est croisés, mais il y a eu très peu de discussions, vraiment, ça a été un croisement. Et puis plus tard, en 2013, quand je suis allé faire un peu des tests en studio pour l'album.
On précise qu'il est aussi ingénieur du son.
Voilà, exactement. Il est ingénieur son. C'est lui qui a enregistré tous les albums qu'on a fait. Puis c'est là que, en fait, je l'ai rencontré pour de bon. Et lui, il a toujours eu cette envie de faire la musique américaine, dans le sens qu'il adore la Nouvelle-Orléans, il y va souvent. Et puis, il avait comme envie vraiment d'exploiter son jeu de guitare dans un projet où il pouvait le faire. Puis c'est le mien qui est tombé là, à ce moment-là. Et, c'est comme ça, finalement, qu'on a continué de collaborer, parce que pour lui, ça, c'est une fenêtre où il peut jouer ce style. Il joue dans beaucoup de formations, que ce soit hip-hop ou bien rock. Alors du coup, c'est vrai que quand il peut faire un peu de musique plus rurale, ça lui plaît.
On va passer maintenant à une autre facette de votre passion, les concerts. Quel a été pour vous le premier véritable concert que vous avez donné?
Alors, c'était sous les arcades de la Grenette en 2012 pour le festival qui s'appelait Arcade. Là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu, mais il reviendra certainement sous une forme ou une autre. Et voilà, à cette époque, il y avait encore ce festival.
On précise juste que le Grand Pont, c'est une rue très sympathique à Sion, où il y a pas mal de cafés.
Voilà.
Il y a ce festival qui de plein air, donc qui se faisait.
Exactement, vraiment sous des arcades, donc un lieu magnifique.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti durant ce concert ou...
Alors, j'avais énormément peur, mais j'avais la chance d'avoir l'expérience de Christian Prélon, qui était là pour jouer avec moi. Puis c'est vrai que c'était vraiment ultra chouette, parce que pour chaque chanson, il amenait un habillage, mais en gardant totalement l'idée de ce que c'était. Donc, soit il jouait un peu de guitare, soit il jouait un peu de banjo, soit il jouait un peu de clavier. Puis à chaque fois, c'était pour chaque chanson, il a fait des habillages vraiment magnifiques. Du coup, pendant le concert, en fait, j'étais extrêmement heureux. Mais avant, j'avais très peur.
Quel est, à votre avis, le plus beau concert que vous ayez donné?
Moi, je pense que les fois où on a joué au Bourg, parce qu'il y a cette histoire avec le Bourg qui est assez spéciale. La salle du Bourg à Lausanne se trouve à la rue du Bourg, donc c'est un ancien cinéma des années 30. La salle est magnifique. Et puis, en 2008, j'avais, par des relations que j'avais dans la musique, eu l'opportunité d'ouvrir pour une première partie anglaise qui est Jono McLeary, fait du folk, qui tend vers le folk traditionnel anglais. Et puis c'était ma première fois en dehors du Valais. Donc là, quand on a été reprogrammé au Bourg avec Yellow Teeth, ça a été un moment que j'ai voulu un peu célébrer. Et puis à ce moment-là, on était arrivé à plusieurs musiciens. Puis là, il y avait vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On avait fait des habillages spéciaux pour les morceaux. C'était... Chaque fois qu'on y a joué ensuite, c'était des bons concerts.
C'est devenu un peu votre salle fétiche, on pourrait dire.
Voilà, exactement. C'est une salle que j'adore. J'espère toujours pouvoir y rejouer une fois. Je croise tout le temps les doigts, en gros.
Est-ce qu'il y aurait un autre concert qui a été pour vous très particulier, voire bizarre, pour toutes sortes de raisons?
Oui. et en fait, ça a été une suite. Pendant l'été 2015, j'ai fait deux grosses scènes. Paléo, mais pas la scène principale, le Club Tent. Et voilà, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait passé 500 personnes.
Belle expérience aussi.
Magnifique expérience, mais extrêmement troublante parce que j'ai rien eu le temps de voir. J'ai passé mon temps à répondre à des interviews derrière. Il faisait chaud, il y avait de la paille par terre parce qu'il n'avait plus la veille. Puis j'avais beaucoup de peine à respirer en fait. C'est le seul souvenir que j'ai. Puis après, il a fallu monter sur scène. Ça s'est passé en un éclat et puis...
Sans soundcheck, bien sûr.
Ah non, alors le soundcheck, il y a eu. Il y a eu soundcheck. Ah oui. On est arrivé tôt, on a fait le soundcheck.
Ah,
le soundcheck était de bonne qualité. Non, c'était plutôt le moment où... voilà, c'était première chanson, dernière chanson et puis j'ai rien vu en fait. J'ai rien vu passer. Il s'est passé la même chose à Winterthur, au Music Fest Voren, qui est un énorme festival dans la vieille ville de Winterthur. Il boucle totalement la vieille ville. Puis ils mettent une scène sur la grande place. Là, il y avait encore plus de monde qu'à Paléo. Je crois qu'il y avait plus d'un millier de personnes. Puis alors là, je m'étais dit, je vais faire un peu différemment qu'à Paléo. Je vais la prendre un peu plus cool. Mais alors par contre, le monde, c'était vraiment... Ça faisait peur, quoi.
Mais une bonne peur. Vous avez quand même aimé.
Alors, j'étais très heureux. Je veux dire, on a pu jouer fort. On a pu...
Un bon track.
Voilà, c'était un très bon track. Et puis, les gens étaient ultra réactifs. Parce que moi, je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc, voilà, c'était un bon concert, malgré tout.
Vous avez donné, bien sûr, beaucoup de concerts en Suisse, mais aussi à l'étranger. Dans quel pays?
J'ai fait France et Allemagne.
Mis à part cette période où on vient un peu au ralenti à cause d'un certain virus, combien de concerts vous donnez par mois ou par année, en moyenne?
Ça dépend. Il y a eu des années beaucoup plus propices que d'autres. Par exemple, l'année 2017 était extrêmement pauvre en concerts. Je me souviens, il me semble que j'en avais qu'une vingtaine. Puis il y a eu des années où j'en ai eu vraiment beaucoup, comme par exemple en 2015. Là, j'en ai, je sais plus, je me souviens que c'était, je crois, autour des 40. C'est vrai que j'ai pas cherché durant toutes ces années à faire le maximum de concerts. Par contre, j'ai cherché à faire à chaque fois des concerts bien.
De qualité. Ouais.
Voilà. Et puis jouer dans des lieux qui étaient faits pour. Parce que souvent, je dis non. Parce que c'est des gens, ils ne se rendent pas compte, ils me disent « Est-ce que vous pouvez venir jouer là ?» Et puis le lieu n'est pas du tout, c'est pas faisable avec de la musique acoustique. Ils ont une idée qu'ils se disent « Bon, ils arrivent, ils se branchent et puis tout va bien. » Mais ça, c'est assez compliqué, surtout pour tout ce qui est festival open air. Souvent, on a dû balancer en électrique parce que ce n'était pas possible de le faire avec des instruments acoustiques. Ouais.
Tout récemment, vous avez joué au Palp Festival, qui, on le rappelle, est un festival multisite en Valais. Quel souvenir?
Alors, le Palp, c'est à peu près comme la salle du Bourg, mais façon festival. C'est un festival avec lequel j'ai un lien spécial. Ça a commencé parce que j'ai joué pour la première fois en 2013. Puis ensuite, j'ai joué énormément au Palp. Je crois que je détiens certainement le record de participation, mais parce que j'ai aussi joué dans des petits événements, pas forcément dans la programmation figée, mais dans des petits événements de clôture ou bien dans des trucs qu'ils organisent. C'est vrai que pour eux, je prends volontiers la guitare et puis je vais jouer, quelle que soit la condition.
Tiziano, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de votre troisième album, le dernier donc, qui s'intitule Stella, qui date d'une année à peu près maintenant.
Septembre, octobre 2018.
Est-ce que les chansons de cet album sont regroupées autour d'un thème particulier?
J'ai voulu faire ça, j'ai pas réussi. Par contre, c'est un album qui a été composé dans une période pas très heureuse de ma vie, parce que j'avais des problèmes professionnels qui étaient liés à ma position de remplaçant. Puis ça a été une année où j'ai pas eu de bol, et puis voilà, financièrement c'était ultra difficile. Puis c'était à ce moment-là que j'ai dû composer l'album, parce que tout était fait, je savais qu'on allait en studio. Puis voilà, alors du coup j'étais pas mal déprimé quand je le faisais, puis j'écrivais les chansons pour me remonter un peu le moral en gros.
Est-ce que d'un côté ça a dopé votre créativité?
Je pense pas que ça l'a dopé, parce que ça, c'est des chansons qui m'ont pris énormément de temps à composer. Par contre, je me suis laissé un peu plus aller à l'improvisation. J'avais des structures, finalement ce que j'ai fait c'est que j'avais des structures avec des paroles qui étaient posées, mais que je pouvais aménager encore le temps que j'étais en studio, etc. Donc c'était beaucoup moins figé à l'arrivée en studio que les deux autres albums. Puis à ce moment-là, j'ai annoncé direct à Sacha que j'allais procéder comme ça. Lui, il comprend très vite. Du coup, quand on est arrivé en studio, on a passé 3 jours à vraiment improviser des choses sur ces structures. Il y a des morceaux qui sont sortis totalement différents. Et puis même lui m'a dit je vais expérimenter, je vais tenter des trucs. Si ça passe, tant mieux.
Combien de temps pour créer cet album du tout début, c'est-à-dire de l'écriture, jusqu'à l'enregistrement final?
Il faut compter un peu plus d'une année pour que ce soit fait. Il y a la phase d'écriture qui prend, je pense, ouais, certainement la majorité du temps. La phase d'écriture, elle doit me prendre à chaque fois, je pense, 7-8 mois. Et puis ensuite, l'enregistrement, ça se fait très vite, 3-4 jours maximum. Puis ensuite, il y a 2 jours de mixage, peut-être 1 jour de mastering, et puis c'est fait. Après, il faut créer la pochette, etc. Puis là, j'ai travaillé chaque fois avec une peintre qui s'appelle Cécile Giovannini, de la région de Martigny, qui, elle, comprend aussi très vite les choses. Et puis, du coup, j'ai toujours eu du bol avec elle. Et j'ai toujours fait comme ça pour tout ce qui était graphique. Je laisse la carte blanche à la personne, mais avec le droit de dire non. Si, par exemple, à un moment, ça va pas, ou le label est pas content, c'est arrivé que le label trouvait qu'une pochette ou une autre allait pas trop. Du coup, c'est pas grave, mais il faut le dire assez tôt. Pas laisser la personne peindre le truc final et puis...
De manière générale, quand votre bébé naît, quand un album sort, est-ce que vous faites une sorte de dépression postpartum?
Ça peut arriver, ça m'est arrivé pour le deuxième album où j'avais mis tellement d'énergie à le faire, j'avais essayé de tout contrôler. C'est vrai qu'après, quand il est sorti, il y avait une sorte d'amertume, je pense, liée au fait que j'avais placé énormément d'énergie dans cet album et puis d'attente. Puis après, c'est vrai que la compréhension de l'album a pris du temps chez les gens. Et puis du coup, j'étais déçu parce que je me disais, voilà, bah, j'ai merdé, j'ai pensé que je comprenais, puis en fait, je comprends pas. Mais finalement, il s'est révélé que, avec le temps, puis certainement avec ma vision qui a changé, d'être moins le nez dedans, j'ai quand même eu beaucoup de retours positifs sur ce deuxième album. Du coup, c'est une expérience un peu en demi-teinte pour moi. Mais c'est pour ça aussi que le troisième album, je l'ai fait plus improvisé, en me disant que ça irait comme ça finalement, puis que ça servait à rien de vouloir tout contrôler.
Tiziano, si vous le voulez bien, on va faire maintenant une deuxième pause musicale avec un titre tiré justement de ce dernier album. Et ce titre, c'est I'm New Here. Est-ce qu'il correspond à une étape particulière de votre vie, à un souvenir particulier?
Il correspond à plutôt à un souvenir musical, dans le sens où quand je l'ai composé, il reprend des structures que j'utilise assez souvent. On l'avait travaillé en groupe et puis on l'a joué tous en groupe. Mais quand il a fallu l'enregistrer sur l'album, on s'est rendu compte que ça allait pas très bien. Et à ce moment-là, j'ai décidé de changer légèrement le rythme. Et Sacha est venu jouer par-dessus. Ça a été de nouveau un de ces moments où je me suis dit, j'ai appris quelque chose musicalement. Et puis ça a permis de transformer la chanson en quelque chose de bien mieux, je pense. Mais on a tous les deux un peu improvisé dessus, et puis finalement ça a donné ce morceau que j'aime bien aussi, parce que les paroles sont assez représentatives de ce processus où elles n'ont pas besoin d'être fixes, elles peuvent être légèrement modifiées, ou même abandonnées, préférées, ou ce genre de choses.
Alors on écoute ce titre.
Knock me down, whatever it is, no, I can't take it. It's been a while, I figured it out, sorted it from A to Z. I'm shake when I know you're I must admit your sweet, sweet fear. Just don't get mad, 'cause I'm new here. Just don't get mad, 'cause I'm no pain, no gain, the rest of this holy shit. You can't shoot it down, but when we're together, we easily skip it. I'll shake when I know you're near. And I must admit, you're sweet. Sweet fear. Just don't get mad, 'cause I'm new here. Just don't get mad, 'cause I'm new here.
Voilà, nous avons donc entendu I'm New Here, tiré de votre dernier album. Quelle est votre actualité et quels sont vos projets ?
Alors, on a des concerts qui viennent avec Sacha. J'en ai un seul qui sera un concert privé en salon dans cette optique de relancer un peu les concerts à la mi-août.
Par rapport au Covid.
Exactement, par rapport au Covid. Ouais. Et puis ensuite, on a un concert normalement qui est programmé en septembre à Puy, à la bibliothèque de Puy. Et puis, si tout se passe bien, on pourra certainement le faire. Donc, j'espère que d'ici là, le virus n'emporte pas sur la culture.
D'autres projets à moyen terme ?
Absolument. Oui. Alors, entre-temps, j'ai commencé un autre groupe avec d'autres musiciens. Et puis, avec ce groupe-là, on a plus de concerts qu'avec Yellow Teeth. J'arrive à la fin de la promotion du troisième album. Et du côté de Yellow Teeth, du coup, je vais certainement faire une petite pause pour retravailler des morceaux que j'ai composés pendant le confinement. J'avais désaccordé ma guitare pour trouver d'autres accordages. Et puis, j'ai commencé à composer comme ça. Alors ça va me prendre un peu de temps, puis du coup, d'ici à ce que je finisse quelque chose, il me faudra certainement de nouveau une année et demie.
Et ce nouveau groupe, est-ce qu'en primeur on peut savoir de quel groupe il s'agit, ou vous préférez attendre un petit peu parce que c'est un peu en gestation ou...
Il existe déjà, il s'appelle Olympique Antigua, et puis c'est un groupe avec lequel on va jouer déjà ce samedi, donc en août. Et puis on a des concerts programmés pour octobre également, et puis après plus loin, c'est en train de se faire. Donc voilà, c'est un projet où je suis plus la personne centrale, où je joue plusieurs instruments, où tout le monde joue plusieurs instruments, puis finalement ça me permet d'avoir une autre expérience de la musique. J'ai toujours voulu en fait de jouer dans un groupe, j'ai pas toujours voulu être la figure de proue de quelque chose, et là voilà, je peux m'exprimer autrement, puis c'est bien.
Nous allons maintenant passer au dernier chaînon de cette interview, le petit quiz musical.
Tiziano, d'entente avec vous, on a décidé de faire un petit quiz. Enfin, vous avez été d'accord de vous soumettre à quelques questions musicales. J'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est des questions qui vont porter sur trois chanteurs que vous aimez. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est des questions assez pointues. Alors, on va commencer par Neil Young. Une question, je pense, qui est assez facile pour commencer, c'est pour mettre en confiance. Avec quels trois autres musiciens Neil Young a joué au festival de Woodstock en 1969?
Ah, alors celle-ci, c'est bon. Crosby, Stills and Nash. Lui-même avait demandé à jouer caché, parce qu'il ne voulait pas jouer à ce festival, parce qu'il y avait des tensions internes au groupe. Du coup, on ne le voit pas sur les images.
Jouer caché, ça voulait dire qu'il voulait être hors scène.
Il était derrière un rideau, on le voyait pas sur scène même, il y avait que les trois autres qu'on voyait.
Alors écoutez, c'était ma prochaine question. Moi, la version que j'ai lue, c'est que en fait, il a refusé d'être filmé. Alors justement, je sais pas si il est apparu sur scène mais il a pas été filmé, ou si il a été caché, ça je sais pas.
Ah, alors à mon avis, vous avez la bonne version.
Ouais, moi, je pense que c'est ça. Il a joué quand même devant tout le monde, mais il a demandé qu'il soit pas filmé.
Oui, exactement. Il apparaît effectivement pas sur les images, mais peut-être qu'il était présent.
Il n'apparaît pas dans le fameux documentaire Woodstock qui a été sorti l'année d'après le festival et qui a remporté un Oscar. Donc c'était la deuxième question. La troisième. Quel est le violon d'ingres de Neil Young, ou l'un des violons d'ingres de Neil Young? Vous avez une idée? Pour réponse à choix.
Alors, est-ce que ça a un rapport avec sa passion pour la mécanique, les trains, etc.?
Tout à fait, bravo. Voilà. C'est un train électrique miniature, il en a même dans sa grange.
Exactement. Il a racheté même l'entreprise qui fabriquait ses trains quand il était enfant.
Ah d'accord.
Et il a, enfin maintenant je sais pas s'il en fait grand chose, mais en tout cas il a l'entreprise.
Très bien. Les prochaines questions concernent Bruce Springsteen. En 1984, lui et son groupe ont voulu visiter le parc Disneyland à Los Angeles. C'est vraiment anecdotique. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été refoulés? Trois réponses à choix. La première, deux membres du groupe étaient complètement shootés. La deuxième, ils ont refusé d'enlever leur bandana. Et la troisième, ils ont été virés parce qu'ils avaient des cheveux longs.
Alors, je dirais pas la première parce que c'est pas trop le genre, normalement. Je sais pas s'ils avaient tous des bandanas. Moi, je dirais la dernière.
Ah, malheureusement, c'était l'autre. C'était bien les bandanas.
Les bandanas, ok.
Je crois que pour les raisons de sécurité, ils avaient peur... Que peut-être ça déclenche une émeute ou quelque chose, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est pour des raisons de sécurité.
Ok.
Prochaine question, pour quelle raison est-ce qu'il a mis entre parenthèses sa carrière musicale depuis quelques années? En tout cas, il en fait moins.
Bruce Springsteen?
Oui.
Alors, je n'étais pas au courant, parce qu'il vient de ressortir un album... ça devait être fin 2019.
Disons qu'en tout cas, il en a fait moins pendant quelques temps. Alors, c'est quelque chose dont il parle dans son autobiographie.
Ok, donc il s'est calmé pour une raison.
Oui, oui. En fait, il souffre de quel mal, on dira?
Alors, je ne sais pas du tout. Alors,
il est victime de dépression, donc il en parle justement dans son autobiographie lui-même. Il a même voulu en parler. Puis bah, apparemment, bah, il a repris le bon train des choses.
Quoi. Ok. Ah, bah, alors ça, je ne savais pas du tout qu'il avait ce problème. Ouais.
On passe à la troisième question. En 1977, lors d'une session d'enregistrement, Bruce Springsteen a donné l'une de ses chansons à une chanteuse qui a modifié un petit peu les paroles originales et qui a elle-même enregistré ce titre. Et ce titre est devenu un tube énorme, un gros succès. Ça vous dit quelque chose?
Oui, alors là, je ne vais pas me louper, je pense. Patti Smith.
D'accord, et le titre?
Because the Night.
Bravo, je n'ai pas besoin de donner les trois réponses à choix. On va passer maintenant à un autre chanteur que vous affectionnez particulièrement, Leonard Cohen. La chanson Suzanne a une particularité, laquelle? Enfin, il y a trois réponses à choix, parce que la question est un peu...
Elle est vague,
il y a plusieurs vague, elle est trop vague, donc elle doit avoir beaucoup de particularités. Parmi ces trois, laquelle est juste? La première, elle a été reprise par Sting et David Bowie en concert, dans un concert de bienfaisance. Deuxième possibilité, l'idée de la chanson lui est venue lors d'une séance d'hypnose. Et la troisième possibilité, cette chanson a été l'objet d'un long procès. En effet, pendant longtemps, Leonard Cohen n'a pas touché de droit concernant cette chanson. Il s'est battu et finalement, il a obtenu gain de cause.
Moi, j'irais sur la troisième parce qu'il ne semble pas qu'il était sous hypnose. Et puis, la reprise, il y en a tant qu'on reprit. Même Françoise Hardy a fait une reprise. Donc,
oui, tout à fait.
J'irais pour la troisième.
Tout à fait, c'est bien ça. Deuxième question. Près de quelle ville est né Leonard Cohen?
Alors, normalement, Montréal.
Oui, tout à fait.
Si je ne me trompe pas.
Oui, c'est bien ça, oui. Ouais. D'ailleurs, y a une photo, on voit une photo, ils ont mis une immense représentation de lui sur un immeuble.
Et il a eu beaucoup de peine à quitter Montréal au départ. Après, une fois qu'il était en Grèce, tout allait mieux.
Ouais. Et la troisième question, en 1970, Leonard Cohen s'est produit dans un festival juste après une prestation de Jimi Hendrix. Ouais. Quel festival assez célèbre?
L'Isle de Wight.
Très bien.
Ouais.
Qui se trouve, l'Isle de Wight?
En Angleterre, non?
Au large de... Oui, en fait, c'est au Royaume-Uni, ouais. Ça fait partie de ces îles qui sont dans la Manche.
Exactement, voilà, dans la Manche, ouais.
Donc bravo, magnifique résultat. De ces trois chanteurs, est-ce qu'il y en a quand même un des trois que vous préférez?
Ah, c'est par période, mais de toute façon, s'il faut me faire vibrer par une quelconque corde, Leonard Cohen, ça fonctionne toujours.
Très bien, alors merci.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette interview. Il me reste à remercier mille fois Tiziano et à lui souhaiter une bonne route musicale et artistique. Merci à tous nos auditeurs et Tris, et à bientôt.